Bonjour, aujourd'hui un des écrivains les plus singuliers du XXe siècle, mort il y a 20 ans jour pour jour, Jean Genet. Écrire, c'est peut-être ce qui vous reste quand on est chassé de la parole donnée. Jean Genet. D'histoire. Rarement une œuvre et une vie n'ont été à ce point confondues. Rarement aussi un écrivain ne s'est autant livré que Jean Genet. Depuis qu'il a été abandonné par sa mère 7 mois après sa naissance, jusqu'à sa mort dans la solitude il y a 20 ans, il a trouvé dans ses voyages, dans ses prisons, auprès des Black Panthers américains et des Palestiniens, la matière d'une des œuvres littéraires les plus singulières du XXe siècle. Mais cet écrivain à succès, découvert par Cocteau et sanctifié par Sartre, est resté toujours le même jusqu'à sa mort, le poète révolté, solitaire et marginal, qu'il était déjà dès les premiers jours de sa vie.
Je suis né à Paris le 19 décembre 1910, pupille de l'assistance publique. Il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Par elles dont je porte le nom, le monde végétal m'est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs. Elles sont de ma famille.
Arnaud Malgorn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une biographie de Jean Genet que l'on vient d'entendre lisant lui-même un extrait de son journal du voleur dans lequel il rappelle sa solitude au début d'une vie, disait-il, tranchée en y entrant. Alors vous le rappelez vous-même dans votre livre, cet abandon par sa mère 7 mois après sa naissance a déterminé tout le reste de son existence, Arnaud Malgorn.
Oui, un double abandon même, puisqu'il a d'abord été abandonné par sa mère qui s'appelait Lapsus étonnant dans la bouche d'un enfant, Camille, et non pas Gabrielle. D'autant plus étonnant que Gabrielle, c'est le prénom de l'archange, et que Genet dira plus tard que les orphelins, aura cette très belle expression, sont les enfants des anges. Et donc il a été élevé dans une famille du Morvan, comme la plupart des petits Parisiens confiés à l'assistance publique, par la famille Régnier, avec laquelle il s'est, par laquelle il a été, on peut le dire, tout à fait choyé, jusqu'à ce qu'à l'âge de 11 ans, un deuxième drame, la mort de cette mère adorée, le refasse plonger dans le traumatisme.
Et alors là commence une dérive qui va durer une vingtaine d'années. Genet va passer de colonie pénitentiaire en prison pour vol, en passant également par l'armée où il va s'engager, ce qui peut paraître curieux aujourd'hui. Et puis il va aller d'hôtel en hôtel. C'est une vie extraordinaire, sans avoir d'ailleurs pratiquement écrit, pendant une vingtaine d'années. Et en même temps, c'est de ses voyages, c'est de cette aventure, c'est de son homosexualité aussi, qu'il va tirer ensuite toute la matière de son œuvre.
C'est une vie très romanesque, effectivement, qu'il a voulu vraisemblablement comme telle dès le début, puisqu'il était le premier rapport juridique le concernant parle d'un enfant à qui la lecture des romans d'aventure de Michel Zévaco aurait déjà tourné la tête. Par la suite, il va effectivement aller de prison, la petite requête, en colonie pénitentiaire, comme on disait. Et l'épisode le plus important sera son passage durant 4 ans à la colonie pénitentiaire de Maitré, colonie dans laquelle il sera malgré tout heureux. où il va se constituer une espèce de famille de substitution avec ses rites. Il va s'y marier, chose peu connue là-bas, à un autre colon de nuit dans la clandestinité. Il va aussi, autres rites familiaux, assister à des enterrements. Il y a une très belle page où il évoque l'enterrement d'un enfant et où il dit, si je le jure, si à ce moment-là un fossoyeur comme à la ville se serait avancé en disant la famille, je me serais tourné vers lui car j'étais la seule famille de cet enfant.
Pourquoi le vol? Parce que c'est pour vol qu'il va aller plusieurs fois en prison et même jusque au tout début des années 50. À quoi ça correspond? C'est une espèce de façon de se révolter au fond contre une société qui au fond dès le départ l'a rejeté, Arnaud Malgorn.
On peut penser que au début ça a été simplement une façon de vivre, hein, sans vouloir paraphraser Les Misérables. Sa première incarcération tient au vol d'une couverture, parce qu'il voyageait clandestinement dans un train. Par la suite, il ne commettra jamais de gros délits. Le principal étant en fait lié à sa désertion, puisqu'il va s'engager deux ou trois fois exactement dans l'armée, et il va déserter lors de son dernier engagement. À la fin, à partir des années 40, où il est à nouveau, où il commence à trouver sa voie et il commence à être connu, le vol deviendra pour lui un moyen de perfectionner sa légende.
Les années 40, au tout début desquelles il semble qu'il ait commencé à écrire, et pour des raisons qu'il expliquait lui-même 40 ans plus tard à la radio en 1982.
Écrire, c'est le dernier recours qu'on a quand on a trahi. Je suis très vite si écrire veut dire éprouver des émotions ou des sentiments si forts que toute votre vie sera décidée par eux. Écrire, c'est peut-être ce qui vous reste quand on est chassé du domaine de la parole donnée. Le jour où je mourrai, où je serai volatilisé, il ne restera rien du tout puisque je ne serai plus là.
Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour.
Marc Augeret chantant Le condamné à mort, un beau poème de Genet. Ce qui est extraordinaire, c'est que se révolter, Arnaud Malgorn, c'est en même temps une écriture extrêmement classique.
Imaginez un petit peu la surprise de ces codétenus de Fresnes lorsqu'il écrit ce poème et qu'il leur lit, c'est son premier public. Ce lien entre une fantasmatique totalement débridée et une métrique parfaitement contenue, à laquelle il ne manque ni un enjambement ni un rejet. Le plus grand mystère de Jean Genet, c'est de savoir comment on devient Jean Genet, effectivement.
Et un mystère qui étonne pas seulement ses codétenus à Fresnes, mais aussi la première rencontre très importante qu'il fait en 1943, c'est celle de Jean Cocteau, qui est un écrivain consacré à l'époque, c'est donc important de le rencontrer, et qui est ébloui par le manuscrit de Notre-Dame des Fleurs. Jean Cocteau dit « Le livre est là, terrible, obscène, impubliable. Pour moi, c'est le grand événement de l'époque. Il me révolte, me répugne et m'émerveille. » Étonnant ce mélange d'enthousiasme et presque de répulsion. Et cette réaction de Cocteau.
Il parle aussi de la bombe jeûnée. Et effectivement, sa première réaction va être de vouloir brûler le manuscrit que lui a confié Jeunet, tellement ce manuscrit lui brûle les mains. Et en fait, après une nuit de réflexion, il se rend compte que derrière les facilités de la prose érotique, il tient un véritable poète, un véritable auteur, qui est peut-être, par certains moments, en lisant Cocteau, mais Cocteau était un être très, très humble par certains côtés, qui était peut-être, Cocteau se sentait peut-être inférieur quelque part à Jeunet. En tout cas, Jeunet réalisait la solitude que Cocteau n'avait jamais ne réussissait pas à obtenir. Monique Lange, la biographe de Cocteau, disait « Cocteau se voulait seul, Jeunet était seul ».
Mais alors, totalement inconnu, et c'est là que Cocteau est important, il va lui faire découvrir à Jeunet un milieu qu'il ignore totalement, c'est-à-dire tout simplement les écrivains de l'époque, Éluard, Desnos, Colette. Colette, ça c'est très important. Autre rencontre importante, très importante, un an plus tard, ça va être celle qu'il fait avec Sartre. Alors là, Sartre, c'est un peu Sartre qui va le faire connaître dans le monde entier.
Alors pour ce qui est de Cocteau, il est pas si sûr que Jeunet n'ait pas eu auparavant, enfin il est même sûr que Jeunet ait eu avant Cocteau des contacts avec le milieu littéraire. Il était tellement sûr de sa vocation depuis le milieu des années 30 qu'il avait même rencontré Gide, poussé la porte de Gide pour se présenter à lui. On a encore une lettre à André Gide. Effectivement, ce que va lui apporter Cocteau, c'est d'une part, Cocteau va être son Orphée. Il va le faire sortir des enfers. Il va véritablement témoigner de manière décisive devant les juges pour faire sortir Jeunet définitivement de prison et quelques années plus tard, avec l'aide de Sartre, pour écarter une menace de relégation qui pesait sur sa tête et pour laquelle il a fait signer quasiment tous les écrivains de l'époque.
Mais en ce qui concerne Sartre, là, c'est absolument incroyable. Lui aussi, consacré évidemment, surtout à la fin et au lendemain immédiat de la guerre, Sartre qui en 1952 va même carrément le sanctifier dans une préface des œuvres de Jeunet, que Sartre d'ailleurs encourage à faire éditer par Gallimard, et dans la préface, eh bien tout simplement, que dit Sartre? Il parle de Saint Jeunet, comédien et martyr. Ça c'est absolument incroyable de la part, encore une fois, d'un auteur consacré vis-à-vis de quelqu'un qui, pour l'instant, n'a eu qu'un succès d'estime avec son premier livre.
Là encore, il est probable que Sartre est fasciné par Jeunet, parce que Jeunet est toute la liberté dont ne peut pas disposer Sartre. De fait, Sartre va à partir de Jeunet tirer une théorie du génie, comme quoi le génie est la solution qu'on invente dans les cas les plus désespérés, qui colle parfaitement à la biographie de Jean Jeunet.
Alors Sartre, c'est 152, Saint Jeunet, Saint et Martyr, mais cela dit, entre-temps, Jeunet avait écrit et fait jouer sa première pièce de théâtre, créée par Louis Jouvet et présentée par Michel Robida à l'Athénée en avril 1947.
C'est la première pièce de Jean Jeunet, ce sont ses débuts au théâtre. C'est un acte qui devait s'intituler d'abord, plus explicitement, La tragédie des confidentes. Mais Jean Jeunet a préféré conserver son premier titre, Les Bonnes.
Madame nous a vêtues comme des princesses. Madame a soigné Claire ou Solange, car Madame nous confondait toujours. Madame nous enveloppait de sa bonté. Elle nous donnait les petits objets dont elle ne se sert plus. Elle supporte que le dimanche nous allions à la messe et nous placions sur un prie-dieu près du sien. Car Madame est bonne, Madame est belle, Madame est douce. Ainsi, Madame nous tue avec sa douceur, avec sa bonté, Madame nous empoisonne. Car Madame est bonne, Madame est belle, Madame est douce. Madame prépare nos tisanes, Madame nous parle de Monsieur à nous en rendre jalouses. Car Madame est bonne, Madame est belle, Madame est douce.
Et c'était un extrait des Bonnes, la première pièce de Jean Jeunet, inspirée, il faut le rappeler, Arnaud Malgorn, d'un fait divers qui s'était réellement produit dans les années 30, c'était les Sœurs Papin.
Effectivement, les Sœurs Papin ont sauvagement assassiné leur maîtresse dans la bonne ville du Mans dans les années 30. Mais la fin que choisit Jeunet à ce drame est tout à fait différente. Ce n'est plus une fin de fait divers, c'est vraiment la fin d'une tragédie intériorisée, puisqu'il y a la maîtresse s'en sort sans une égratignure. En revanche, une des sœurs se suicide et l'autre décide de maquiller le suicide en crime pour pouvoir prétendre au bagne.
Alors c'est la première de toute une série de pièces de Jean Jeunet. On peut citer bien sûr Le Balcon, Les Nègres, hein, surtout en 1951. Jeunet qui se fait une idée très particulière d'un théâtre, d'ailleurs qui est extrêmement original, Arnaud Malgorn.
Le théâtre permet à Jeunet d'atteindre une universalité auquel il ne pouvait pas prétendre par ses romans qui étaient quand même centrés autour de sa propre personne, de son autobiographie. Notamment, il va. Ce n'est pas vraiment un théâtre. On peut pas vraiment parler encore de théâtre politique. C'est plutôt un théâtre sur le politique, un théâtre dans le théâtre, montrer la vanité du monde politique, l'inanité de la représentation du pouvoir qui l'intéresse. Et d'ailleurs, un des personnages qu'on va retrouver comme un fil rouge dans son théâtre sera celui du photographe ou du caméraman. Qui est là pour figer l'image du pouvoir.
Alors c'est le théâtre, c'est surtout par le théâtre qui s'est fait connaître à ce moment-là. Ce qu'on sait moins, vous le rappelez aussi dans votre biographie, Arnaud Malgorn, c'est que il s'est essayé au cinéma sans grand succès, mais aussi il était connu par ses écrits esthétiques, sa passion notamment pour Giacometti, pour Rembrandt.
Pendant qu'il écrit son théâtre, effectivement, il s'intéresse en esthète à un certain nombre d'artistes. Le premier d'entre eux étant Rembrandt, mais sans doute le plus important, parce que ça aurait été aussi une amitié très forte, je n'ai parlé même du seul ami qu'il a eu dans sa vie, va être pour Giacometti, chez qui il pose pour des portraits. Chez Rembrandt comme chez Giacometti, ce qu'il admire et ce qui va dès lors orienter toute sa vie, c'est ce détachement du matériel où seul l'art devient important. Et l'art en lui-même devient la raison de vivre principale.
Alors c'est surtout quand même par le théâtre qu'il s'est fait connaître et même conspuer avec sa dernière pièce qui fera en très antimilitariste et qui fera scandale, Les Paravents, créé en 1966 à l'Odéon et présenté par Jean-Louis Barrault.
Ce soir, les coulisses du Théâtre de France sont en pleine effervescence car nous créons une pièce de Jean Genet intitulée Les Paravents. Il se peut que cette pièce, comme je vous l'ai dit, soit cause de scandale et passe pour une provocation.
Je veux qu'on renvoie à votre famille des bracelets-montres et des médailles tachées de sang caillé, et même de foutre. Je veux cousues dans vos doublures des images de gonzesses à poil et des immaculées de Lourdes. Autour de vos coups, des chaînettes d'or ou de plaqué or. Sur vos cheveux, de la brillantine. Des rubans dans vos poils du cul, pour ceux qui en ont. La guerre est une partouze du tonnerre, réveil triomphant, faites reluire mes bottes. Vous êtes le chibre terrible de la France qui rêve qu'elle baise.
Il y a eu une manifestation cet après-midi aux abords du Théâtre de France. La pièce de Genet, Les Paravents, est à l'origine de cette petite ou grande colère. Nous allons le voir puisque Pierre Colomb était sur place.
Ils sont pour le moment plusieurs centaines de manifestants sur la place de l'Odéon. Tous des anciens militaires, des anciens combattants de la guerre d'Algérie et aussi de la guerre d'Indochine. Ils sont venus avec des drapeaux et une banderole sur laquelle est inscrite « Gloire à l'armée, mouvement d'Occident ».
Et c'était en 1966. Rarement une pièce n'a provoqué autant de passion dans les rues. Arnaud Malgorn, bon, il est vrai quand même que à bien des égards, on a pu accuser Genet d'être très provocateur, hein, dans le contenu, par exemple, très antimilitariste de cette pièce.
Probablement. Il en a encore rajouté, voyant combien sa provocation réussissait à mobiliser contre lui l'extrême droite, le groupe Occident. Et pourtant, c'était 4 ans après la guerre, et pourtant, Genet ne cite pas l'Algérie dans les paravents. Au contraire, la couleur locale est plutôt celle du début du 19e que de la décolonisation. Et en fait, tout est parodique dans sa pièce. On a entendu un soldat, un lieutenant dont le sens de l'héroïsme était totalement parodique, mais on aurait pu parler aussi du colon dont le rêve c'est de faire pousser une roseraie dans le désert, ou même des révolutionnaires dont le grand acte d'indépendance dans la pièce c'est d'assassiner une première communiante. Bon, je crois que le sujet de la pièce n'est pas là.
Alors c'était en 1966, à une époque où peu de gens le savaient, Genet était très éprouvé par un drame qui était le suicide de son compagnon Abdallah en 1964. Et c'est une époque où il a voulu arrêter d'écrire, où il a même pensé à se suicider.
Il l'a fait. Il a fait une tentative de suicide. Ce n'était sans doute pas la première, peut-être pas la dernière, ça je ne sais pas. Ce qui est assez étonnant, c'est que le cycle productif, si l'on peut dire, de la production de Genet suit un petit peu toujours le même cycle. Il y a une grande phase de dépression qui était celle des, par exemple, des années 30 lorsqu'il errait dans l'Europe en SDF. Il y a eu celle des années 50 qui a suivi la biographie de Sartre, et il y a eu celle que vous évoquez justement, qui accompagne la mort, le suicide d'Abdallah. De ces grandes dépressions, il va sortir grâce à des tragédies historiques, en fait. On a vraiment cette impression. Des années 30, c'est la débâcle de 40, dont il va se réjouir méchamment, qui va l'aider à reprendre le dessus. De la même façon, c'est la mobilisation autour de la guerre d'Algérie qui va l'aider à se ressaisir, à retrouver une veine après les romans, une veine d'inspiration. Et à nouveau, pour Le Captif Amoureux, son dernier livre, ce sera Le Massacre de Sabra et Chatila qui vont lui permettre de se ressaisir.
Alors là, justement, on le trouve dans des engagements. Jamais il n'a été plus loin que, justement, à partir des années 1970, dans des engagements politiques. Il va d'ailleurs voyager beaucoup, se trouve clandestinement, enfin, il rentre clandestinement aux États-Unis pour défendre les Noirs américains et le mouvement des Black Panthers, dont la militante la plus célèbre, Angela Davis, se souvenait plus tard de l'importance qu'avait eu le soutien de Jean Genet pour la cause des Noirs aux États-Unis.
Genet a été très utile parce que il a démontré aux membres du Black Panther Party qu'il était possible qu'un blanc intellectuel, puisse trouver une position non condescendant envers les Noirs. Et aussi, je n'ai été en prison. Nous le savons, alors, il s'est identifié avec le fait qu'il y avait tellement de Black Panthers qui étaient en prison. C'était ça, je crois, qui était aussi très fondamental.
C'est à vous, Nixon. C'est à vous, Agnew. C'est aux libéraux blancs. C'est à la nation blanche américaine que je m'adresse. Vos flics, votre administration, vos magistrats s'entraînent tous les jours, et vos savants aussi, pour massacrer les Noirs. D'abord les Noirs, tous, ensuite les Indiens qui ont survécu, ensuite les Chicanos, ensuite les radicaux blancs, ensuite, je l'espère, les libéraux blancs, ensuite les Blancs, ensuite l'administration blanche, ensuite vous-même, alors le monde sera délivré. Il y restera, après votre passage, le souvenir, la pensée et les idées d'Angela Davis et du Black Panther.
Quand Jean Genet s'engage, on vient de l'entendre, il ne le fait pas à moitié, ni à mot couvert. Il est souvent très excessif, Arnaud Malgorn. Il s'engagera, on l'a entendu, auprès des Black Panthers américains. Il le fera aussi pour la cause palestinienne, dont il va découvrir le drame, notamment en assistant pratiquement en direct au drame de Sabra et Chatila. Cela dit, il faut rappeler, vous le dites, que jamais il ne s'est inscrit dans un parti politique. Il reste encore un marginal, même dans ses engagements.
Il s'est radicalisé pendant son théâtre. Il disait qu'il n'était ni de droite ni de gauche. Et là, clairement, il se place à l'extrême de la gauche. Mais il n'a jamais voulu occuper une place sur la scène politique française. Il n'a jamais voulu, par exemple, qu'on le confonde avec un intellectuel comme Sartre ou comme Foucault. Il voulait garder totalement sa liberté de poète. Du coup, son engagement est très particulier, est assez parfois ambigu. Il ne s'agit pas de faire des discours, il ne s'agit pas d'apporter la bonne parole. Au contraire, il s'agit d'écouter, il s'agit moins de témoigner que de vivre avec. Et il va se rendre sur place, en Amérique, auprès des Black Panthers, auprès des Palestiniens surtout, dès les années 70.
Ce qui va d'ailleurs l'isoler de beaucoup d'intellectuels. Je pense à Sartre, par exemple, qui a toujours voulu que l'on reconnaisse l'État d'Israël, donc qui s'est désolidarisé de Jean Genet quand il a soutenu comme ça les Palestiniens. C'est très seul d'ailleurs qu'il va mourir, c'était il y a 20 ans exactement, dans la nuit du 13 au 14 avril 1986, Arnaud Malgorn, très seul, il va même être enterré très loin de France. Il refusait d'être enterré en France, je crois que c'est au Maroc, en face de la mer, qu'il a été enterré en tout petit comité. Et comment est-ce que cet homme seul, au fond, qu'est-ce qu'il a pu, sans école si on peut dire, qu'est-ce qu'il a pu laisser derrière lui dans la littérature française et la place qu'il y a occupée, qui reste très importante quand même.
D'une part, il a pu y faire avancer un certain nombre de combats, notamment dans les 20 dernières années de sa vie, et c'est pour ça qu'il utilisait la langue de l'ennemi, comme il le disait, et pour ça qu'il utilisait une langue aussi classique. Mais son véritable testament, il l'a laissé à titre posthume dans son dernier livre, Un captif amoureux, qui n'est peut-être pas tout à fait fini, mais qui est justement à la beauté de ses chefs-d'œuvre, qui sont sculptés contre la mort. Alors, qu'est-ce qui reste du captif amoureux? Il faudrait peut-être le demander aux Palestiniens. Il faut savoir que le livre n'est pas est en partie critique à l'égard des Palestiniens.
Oui, mais dans la littérature en général, indépendamment de ce seul livre.
Je pense qu'il y a un sentiment élégiaque dans tout le, notamment dans le dernier livre, Genet écrivait pour ceux qui n'avaient pas de voix et ceux qui non plus ne pouvaient pas le lire. Donc il écrivait pour les plus misérables et avec cette certitude qu'il ne serait pas lu par eux.
Il avait cette formule, on l'a entendu, vous allez le dire lui-même, après moi, il ne restera rien puisque je serai mort. C'est faux.
Alors, il était très soucieux de la postérité, au contraire, on l'a entendu à propos d'Angela Davis. C'était vraiment quelqu'un qui a vécu pour, comme il le disait, être entendu par Ronsard et faire partie de cette chaîne d'écrivains français. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je crois que la meilleure réception de Genet qui soit a été faite par les artistes. C'est vraiment eux pour qui Genet aura changé parfois le sens de leur vie, très souvent le sens de leur œuvre, et des artistes, quel que soit leur mode d'expression.
Merci Arnaud Malgorn. Je rappelle donc le titre de votre biographie, Jean Genet, portrait d'un marginal exemplaire, qui a été publié dans la collection Découverte. Je signale aussi la parution récente du portrait de Jean Genet, un coffret livre, CD, DVD, très complet, comprenant des documents inédits, des extraits de ses œuvres et la version intégrale de son film Le Chant d'amour. Un coffret dirigé par Raphaël Cosimon, édité par EPM et SWP Productions. Et à voir aussi l'exposition Genet jusqu'au 3 juillet au Musée des Beaux-Arts de Tours. La question du jeu Le Figaro France Inter, aujourd'hui pour tenter de gagner les 20 volumes de l'encyclopédie universelle éditée par Le Figaro. Laquelle de ses œuvres n'est pas de Jean Genet? Le sang d'un poète, Notre-Dame des Fleurs ou Le Miracle de la Rose? Je répète, laquelle de ses œuvres n'est pas de Jean Genet? Le sang d'un poète, Notre-Dame des Fleurs ou Le Miracle de la Rose? Pour donner votre réponse, vous pouvez composer le 32-30, 34 centimes la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa, documentation Archivina, Claire Tesser, Claire Destacan et Sandra Escamez. Une réalisation de Bertrand Chaumeton.